Je vais passer à la deuxième outil, la question de fond. Voilà, c'est le fait d'interroger pour ramener à la fine pointe, c'est-à-dire au sujet qui nous paraît important. Un peu comme la parabole, en fait. On va essayer d'attirer l'attention sur quelque chose, mais à travers une question. Alors, quels sont les intérêts de la question? Ça va être déjà de contrer des critiques ou toute attitude qui s'apparente à une critique ou qui prépare une future critique, y compris une mauvaise pensée. Quand des interlocuteurs tirent une tête pas possible et qu'on imagine qu'ils pensent du mal, et quand on cherche à nous tendre un piège, et effectivement, la question permet de sortir du piège et du cadre de la question mal posée, en fait. C'est comme si on déplaçait le sujet de la discussion avec la question. Voilà, donc on va déplacer la discussion sur un terrain où notre interlocuteur aura une chance d'avancer, de trouver une réponse à sa question. Parce que le propre d'un certain nombre de pièges, c'est que c'est des discussions où on ne peut pas vraiment avancer, quoi. On est bloqué par une impossibilité structurelle. La discussion est mal fichue, quoi. Il y a eu un mauvais départ. Donc on oblige en fait à la situation à avancer. Donc contre les mauvais esprits, ça les met en fuite, hein, comme tous les autres outils. Voilà, là je l'ai mis une fois, mais ça vaut pour les sept. Hein. Voilà. Mais comme il est dit à plusieurs moments que alors ils s'enfuirent ou ils arrêtèrent de l'embêter, on va le voir après. Vous voyez, ça, c'est la manière de parler du Christ est quand même intéressante. Alors quelle est la méthode pour la question? C'est toujours poser une question qui permettra à l'autre de répondre par lui-même à sa question. Voilà, Jésus. Les jésuites disent ça, Jésus était jésuite, et on lui pose une question et il repose une question. C'est fatigant parce que on a envie de ne pas réfléchir, alors on pose une question à Jésus et puis en fait il nous fait réfléchir, quoi, pour qu'on arrive à répondre à notre question. Alors, plusieurs sortes de questions, hein. Il y a la question d'entrée de jeu, dès le début de la discussion. Quel est l'objectif que vous recherchez? En fait, qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi vous faites ça? Le pourquoi? Quel est le sens? Donc on a par exemple, pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Il y a l'aveugle né qui demande aux pharisiens, pourquoi me reposez-vous la même question? Serait-ce parce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Vous voyez, il s'appuie sur ça comme pour faire une attaque. On anticipe déjà un peu ce qu'on va dire après. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Là, c'est Jésus qui pose la question. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ça, c'est Gamaliel qui pose cette question. Lorsque les grands prêtres critiquent le fait que les soldats entrebredouillent. Voilà, donc ça interroge sur pourquoi on fait tout ça, au fait. Est-ce que c'est légitime, cette discussion? Est-ce qu'on a pris la discussion par le bon bout? On a les questions, deuxième type de questions, sur un problème similaire, mais qui permet de traiter la question, parce qu'on va transposer la situation sur un autre sujet équivalent. Et d'après vous, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Quand on lui demande, peux-tu faire un signe? Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? Voilà, il demande, à la question pourquoi les disciples transgressent-ils, et ben, il dit, ben, et vous aussi, pourquoi vous transgressez? Autre question, quel est le plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Voilà, là Jésus va s'appuyer sur la récrimination des pharisiens qui disent, qui est-il pour faire, d'où lui vient cette autorité pour il a dit tes péchés sont pardonnés, n'importe quoi. Donc il s'appuie sur cette incrédulité pour, avec une question, pousser le bouchon encore plus loin en disant bah puisque vous êtes incrédule, je vais en plus de pardonner faire une guérison, quoi. Et il y a, la question est encore une médiation qui prépare une attaque, en fait. C'est-à-dire qui prépare la suite, qui prépare le bouquet final, quoi. Voilà, troisième type de question, on a la question rhétorique, dans le sens où c'est une question qui n'attend pas de réponse, sur un exemple pris dans la parole de Dieu ou un constat. Donc c'est pour introduire quelque chose qu'on s'apprête à dire, un argument qu'on s'apprête à donner, au lieu de donner l'argument, on va le donner sous la forme interrogative. Par exemple, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il était dans le temple et qu'il eut faim? Par exemple, si Satan est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Voilà, c'est vrai que c'est plus fin. Au lieu de dire Satan n'est pas divisé, enfin Satan est divisé et son royaume ne tiendra pas, et voilà, il pose la question interrogative. Pourquoi ce moment-ci ne savez-vous pas l'interpréter? Donc on imagine bien que les pharisiens ne vont pas répondre « Ah bah pardon, c'est vrai, on n'est pas très fort pour l'interprétation des signes des temps. » Non, là Jésus, il pose cette question comme une manière de souligner « Mais vous êtes incrédules, vous tout autour, regardez comme devant moi se tiennent des gens incrédules qui me posent la question après que j'ai fait plein de miracles, si je veux faire un signe, quoi. Hein ?» Et puis on a l'aveugle né aussi, qui est un bon modèle. Il dit « Est-ce un pécheur ?» Je n'en sais rien. C'est très fin. Parce que il vient d'entendre une grosse bêtise qui est « Réjouis-toi, cet homme-là est un pécheur. » Et lui, il dit « Est-ce un pécheur ?» Je n'en sais rien.
Ouais, ça, c'est drôle, ça.
Enfin, on imagine bien que lui, il sait que le gars, il n'est pas un pécheur. C'est après qu'il dit « Dieu n'exauce pas les pécheurs. » Mais il commence par la question. Voilà, donc la question formulée aux pensées de notre interlocuteur est généralement favorable pour renvoyer une question de notre côté. Voilà. Dès que notre interlocuteur rentre en dialogue et qu'il se pose une question ou qu'il manifeste une interrogation à travers son attitude, le terrain est favorable pour, à notre tour, utiliser la question comme outil de dialogue. Voilà. Troisième outil que Jésus utilise, la parole de Dieu. Et je l'ai regroupé avec deux autres choses qui, à mon avis, sont un peu la même chose. Parce qu'au début, j'avais fait des catégories différentes, mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est vraiment la parole de Dieu. C'est parole de Dieu, projet de Dieu, assertion. Donc, en gros, c'est avancer des arguments de poids. La parole de Dieu est comme une loi éternelle. Comme si on disait, il est dit dans le décret d'application que machin. Et donc, ça me donne raison. Voilà. Eh bien, là, l'idée, c'est de dire, il est dit dans Ésaïe au chapitre 6, par exemple, vous avez des oreilles pour ne pas entendre, donc, comme vous semblez aveuglé de la même manière, eh bien, vous êtes condamné par la parole de Dieu qui est la vérité, quoi. Donc, l'intérêt de la parole de Dieu, c'est de purifier et de recentrer le débat. Hein, c'est-à-dire qu'on va, c'est comme un glaive qu'on va faire passer, pour purifier et recentrer le débat. On va donner des arguments de poids pour nous donner du crédit, pour, je dirais, ajouter des poids dans notre balance et que petit à petit, ce soit notre balance qui penche du bon côté, quoi, par rapport à ceux qui sont en face et qui n'ont fait qu'une attaque un peu stérile quand on met la parole de Dieu en face. Parole de Dieu, alors, quelle méthode ? Alors l'idée, c'est de citer des passages bibliques qui se déploient dans des situations similaires à la position que nous défendons. Donc pourquoi tes disciples, par exemple, mangent-ils du blé alors que c'est interdit le jour du sabbat ? Donc Jésus, il manipule la parole de Dieu comme argument, plus la question, hein, comme je disais, qui est un autre élément qui s'ajoute. N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim avec ses compagnons ? Il s'introduisit dans le temple pour manger les pains de l'offrande. Toujours le mode interrogatif. Voilà. Donc on commence de préférence par des personnages indépendants de notre interlocuteur. Donc il vaut mieux commencer par une parabole. Enfin, si jamais on utilise plusieurs arguments, il vaut mieux commencer par des situations éloignées. Donc on détourne complètement le projecteur de toi qui a tort ou raison et moi qui ai tort ou raison, et on va le braquer sur une parabole, donc des personnages indépendants dans une situation indépendante. Enfin, peut-être un personnage connu, mais en tout cas un personnage indépendant. Et si on redonne des arguments en utilisant la parole de Dieu, on peut petit à petit rapprocher le projecteur de notre interlocuteur. Et c'est ce que fait Jésus avec l'épisode des épis, par exemple. Il va, en deuxième exemple, dire « Et vous-même, par exemple, vous dérogez au sabbat, les petits gars, quand vous servez dans le temple le jour du sabbat. » Voilà. Donc là, c'est un deuxième argument avec la parole de Dieu. On a eu David et ses compagnons, et on a les prêtres qui dérogent au sabbat, enfin vous, prêtres, vous dérogez au sabbat, voilà, parce que le projecteur se rapproche, vous voyez. Et puis, comme élément de discernement pour nous, quand on utilise la parole de Dieu, évidemment, de toujours se poser la question du projet de Dieu afin d'éviter tout fondamentalisme. C'est-à-dire, qu'a voulu Dieu, quoi ? Est-ce que la parole que j'utilise, elle est en train de tordre le projet de Dieu ? Où elle est en train de respecter la beauté que Dieu a voulu mettre dans le monde. Voilà. Et on a ça avec le couple, le premier couple humain. N'avez-vous pas lu qu'il les fit hommes et femmes afin qu'ils ne soient qu'une seule chair, quoi. C'est ça le projet de Dieu. Donc forcément, la parole sur l'acte de répudiation, on doit se poser cette question-là. Donc ça veut dire que c'est une concession qui a été faite, quoi. C'est pas le projet de Dieu, c'était pas que soit t'es un couple stable, soit tu fais un acte de répudiation, t'as une chance sur deux, quoi. C'était pas ça le projet de Dieu. Ce serait du fondamentalisme de faire comme les pharisiens qui disent si c'est un droit qu'on a, quoi. Rappeler le projet de Dieu, je pense que c'est comme si on citait la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est un argument de poids. Ça dénote qu'on a médité sur la parole de Dieu. Donc, je lis beaucoup la Bible. J'en viens à la conclusion que le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme ne fassent plus qu'un. Donc, si je dis le projet de Dieu est que l'homme et la femme ne fassent plus qu'un, même si je ne cite pas texto le passage de la Genèse où il est dit « tu es la chair de ma chair » ou autre, finalement, mon argument porte autant, parce que l'Esprit Saint est en moi pour faire une synthèse et présenter cette synthèse à mon interlocuteur. Et normalement, si mon interlocuteur se met dans une position d'étude de la Bible, comme moi, il va se rendre compte que j'ai raison, parce que la Bible, dans toute sa cohérence, aboutit à cette conclusion-là. Et je pense qu'on a beaucoup de phrases de Jésus qui sont de ce ressort-là. On a l'impression qu'il cite un nouveau commandement, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'ensemble de versets mis en cohérence. Vous voyez, c'est-à-dire que si on creuse, on se rend compte que c'était déjà dans la parole de Dieu. Voilà, donc rappeler le projet de Dieu, pour moi, c'est on peut mettre équivalent à énoncer des versets de la parole de Dieu. Et on a aussi l'assertion, qui est un peu du même genre, c'est énoncer une vérité générale. Le fait que le royaume de Satan soit divisé, issu de la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si je comprends que le royaume de Satan est divisé, parce que j'ai lu Job avec le diviseur, parce que j'ai lu qu'il y en a un qui s'agite sans arrêt pour diviser le peuple de Dieu, pour diviser l'homme d'avec lui-même, etc. Eh bien, voilà, je cite la parole de Dieu.